La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale.
Aujourd'hui, on va parler d'un des phénomènes, si on veut, là, par rapport à l'apport des Gaspésiens à l'effort de guerre, particulièrement la Deuxième Guerre mondiale. C'est que ça arrivait quand même assez souvent qu'il y avait plus qu'un fils qui s'enrôlait. On se retrouvait avec des situations où il y avait deux, trois, quatre et même plus des frères. Puis aujourd'hui, on était un peu guidé justement par la mémoire de M. Harris Mullen. Dans le cas des Mullen, Mullen, c'est M-U-L-L-I-N, un nom qui en fait, c'est à l'origine, c'était Moulin. Puis éventuellement, c'est devenu Mullen. Et puis, juste dans la section de York, de Gaspé, il y avait 13 cousins Mullen qui se sont portés volontaires durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est pas banal. Ce que je veux dire, c'est I want to declare my interests.
OK.
Juste avant que je commence, juste dire que les Mullen, en fait, moi j'ai un lien de parenté avec eux. ma grand-mère, c'était une Mullen. C'était des gens que j'ai quand même assez bien connus durant ma jeunesse. Mais comme je disais, il y en avait 13 qui se sont portés volontaires durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que on pense à n'importe quelle campagne de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait Mullen qui était là. Juste pour revenir à M. Harris Mullen, c'était un de mes voisins aussi quand j'étais jeune garçon. Et puis, c'était le propre cousin à ma grand-mère. C'était en 2000... On va dire 2014, mais je pense, oui, en 2014, j'ai fait une exposition à l'église de Wakeham qui s'appelait « Les soldats de Gaspé de la Grande Guerre ». C'était ma première exposition. Puis la raison que je rigole, c'est que quand je repense à ça, quand on est à nos premières armes à faire des expositions, on est très naïf. Hein. Et puis c'était vraiment fait avec les moyens du bord. C'était des panneaux d'interprétation. J'avais utilisé des cork boards, des panneaux
en liège,
oui, avec des punaises
pour accrocher des cartons dessus.
Ouais, puis c'était fait avec une imprimante maison. En tout cas, c'était vraiment amateur. Puis même par contre, ça venait du cœur. La première journée, j'ouvrais l'exposition ce matin-là. Et puis en arrivant à l'église, M. Harris Mullen m'attendait sur le perron de l'église. Et puis, aussitôt que je suis sorti de la voiture, la première chose qu'il m'a dit, il dit, t'as donc bien vieilli. Ça faisait peut-être 20 ans que je l'avais pas vu. Puis, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, lui, il avait 90, à peu près, là. Et puis, droit comme un piquet, là. C'est un peu un personnage, pour un peu dresser le portrait du personnage, on veut, là. Le parfait gentleman. C'était quelqu'un qui était toujours bien mis, bien habillé, peigné. Accessoirement, on a fait nos saluts sur le perron de l'église, et puis j'ai fait la petite tournée de mon exposition avec. Une fois la petite tournée finie, puis j'ai même un souvenir de la tournée comme telle, parce que lui, un des panneaux expliquait la bataille de Vimy, puis j'avais des photos par rapport à Vimy, tout ça. Puis lui, il avait des souvenirs d'avoir vu le monument de Vimy en passant là durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait vu le monument à la distance. Et puis là, ben, vu qu'on était forcément un peu dans le beat du souvenir, il s'est installé dans une des bancs d'église. Puis il m'a raconté son expérience de la guerre, essentiellement du début jusqu'à la fin. Lui, c'était le plus jeune, le cadet. Il y avait trois frères aînés qui s'étaient déjà enrôlés puis qui étaient déjà rendus outre-mer. Lui, il voulait s'enrôler à son tour. Il pouvait pas parce qu'il était pas d'âge. Puis aussi, il y avait quand même une réticence du côté familial. Quand on en a envoyé trois, là, on n'a pas pressé d'envoyer le quatrième. Fait que lui, il était vraiment motivé. Lui, il voulait faire partie de l'armée. Croyant à la cause, et puis...
Là, il y a un effet d'entraînement. Là.
C'est ça. Puis ses frères étaient là. Puis ses frères, puis ses cousins, comme je disais, là, juste dans un... un rayon de quelques kilomètres, il y avait 13 cousins. Là. Puis ça, c'est juste ses cousins. C'est pas compter les voisins,
les amis.
Ouais, c'est ça. Là.
Toutes les connaissances.
Ouais, c'est ça. Ben, on sait à Gaspé quand même le taux d'enrôlement. Là.
J'ai pas les chiffres exacts, ouais. Mais semble-t-il que nous serions la région qui a fourni le par capita le plus de soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et à l'œil, parce qu'il n'y a personne qui peut pas te parler de quelqu'un de sa parenté qui n'a pas fait la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement.
Comme la Première Guerre.
Exactement. Ça fait partie de qui nous sommes comme Gaspésiens. Ça fait partie de notre héritage. Le service militaire, ça va main dans la main. Avec le fait d'être gaspésien. Fait que ce matin-là, M. Mullen s'est installé justement dans son banc d'église et puis il m'a tout raconté. Pour lui, pour commencer, ses trois frères aînés ont tous participé à la bataille de la campagne d'Italie. De mémoire, il y avait deux frères qui étaient dans l'infanterie puis un frère qui était dans l'artillerie, ou ça se peut que ce soit le contraire. Là. Un de ses frères avait été blessé quand même assez sérieusement. Il a rétabli ses blessures. Mais pour lui, la guerre, ça avait fini en Italie. Et puis, il y avait aussi un cousin qui était prisonnier à Hong Kong. Cousin et voisin, juste de l'autre bord, de la rue, qui était, comme je dis, prisonnier à Hong Kong. Il s'enrôle, lui, il arrive en Angleterre en 1943. Il passe l'hiver 43 en Angleterre. Évidemment, on sait qu'il y a eu le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Lui, il faisait partie du régiment, ça s'appelait le Algonquin Regiment. Ça, c'est originaire de l'Ontario. C'est une unité d'infanterie de l'Ontario. Mais dû son jeune âge, parce qu'il avait seulement 17 ans, puis c'était un 17 ans douteux. Là. Il s'est retrouvé, lui, sur son emploi, ben, on va voir dans un instant. Là. Lui, il est débarqué à Juneau, jour J plus 7, donc le 13 juin. Puis il me racontait sa traversée de la Manche. Et puis, tu sais, j'avais demandé un peu là, qu'est-ce que ça avait l'air côté combat et tout ça. Il dit, c'est certain là, que ça on voyait là que le combat était quand même actif, même si on était une semaine passée le débarquement. Il y avait quand même là beaucoup d'actions dans le ciel et puis de l'artillerie, etc. Mais lui, ce qu'il se souvient, c'est la traversée comme telle. La météo était pas terrible. Puis c'était pas quelqu'un qui avait le pied marin nécessairement. Il m'avait dit qu'il était content qu'il s'était pas enrôlé dans la marine. Fait que là, il est rendu en Normandie. Donc, il participe à la bataille de Normandie. Il a participé du début jusqu'à la fin. Mais son emploi principal, sa principale tâche, c'était, il chauffait un camion à l'intérieur d'une unité d'infanterie. Donc, il amenait des troupes vers le front, puis il ramenait des prisonniers du front
vers la côte pour l'évacuation.
Vers les camps de prisonniers. Donc, il était toujours un peu dans le milieu de l'action. Et puis, il me contait une anecdote particulièrement touchante. À un moment donné, il se trouvait sur le bord de la route, sur le côté de la route, en Normandie, durant la bataille de Normandie. Et puis, il était un rassemblement de deux ou trois camions en attente là, de la prochaine mission. Là. Donc, on peut s'imaginer le scénario. Là. Il était regroupé sur le côté du chemin en train de fumer des cigarettes et jaser, là, prendre un café. Puis tout d'un coup, une ronde d'artillerie a tombé dans le milieu du groupe. Puis 17, il a vu 17 de ses camarades mourir, hein, se faire frapper là, par une ronde d'artillerie. Là. Fait que, comme qu'il m'avait dit, il dit ça, c'est pas quelque chose que tu oublies facilement. Parce que, puis ce qui est un peu ce qui l'avait amené à raconter cette histoire-là, c'était que dans mon exposition, je parlais des soldats qui étaient morts sans sépulture connue. Puis il expliquait que, ouais, il dit, je comprends comment est-ce que ça pourrait se passer. Il dit, parce que, puis là, ça va être graphique un peu ce que je vais dire, là, mais il dit, on avait des membres, là, tu sais, un bras ou une jambe, puis on, tu sais, on savait pas trop, là, qu'est-ce qui va appartenir à quel, là. Je veux pas trop.
Non, mais c'est le propre des obus.
Ah,
là,
quand, c'est ça.
C'est une...
Puis pour un jeune, comme je dis, là, qui avait
17 ans.
Un adolescent, un jeune adulte, là, voir quelque chose comme ça, ça l'avait vraiment marqué. Il a participé, lui, à la bataille de Normandie. Puis on sait que suite à la bataille de Normandie, les Canadiens se sont retrouvés du côté de la Hollande. Ils ont passé par la Belgique, mais ils se sont retrouvés du côté de la Hollande. Puis lui, il a participé à la ce qu'il appelle l'opération Market Garden, qui a été particulièrement
meurtrière.
Là, on parle de ville en Hollande, de Nijmegen. Puis il me racontait que c'est pas lui là, qui avait développé la théorie, c'est quelque chose qui est connu. Une des difficultés pour les forces alliées durant la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement dans le nord-ouest de l'Europe, c'était la logistique. Parce que des fois, les troupes avançaient plus vite que la logistique était capable de suivre. Donc, le résultat de ça, c'est que souvent, les soldats ils pouvaient pas manger à leur faim. Là. Puis lui, il se souvient que c'était particulièrement rude, ça. Que même s'il n'avait pas été élevé dans la Watt, il avait été élevé quand même dans un environnement où on avait chacun avait une ferme, chacun avait un jardin, on faisait de la chasse, on faisait de la pêche. Il avait jamais eu faim de sa vie jusqu'à ce moment-là. Il dit, puis moi, j'avais faim. Là. Il se souvient d'avoir reçu un paquet de sa mère. À cette époque-là, ça arrivait. Les parents envoyaient des paquets. En anglais, on appelle ça des care packages. Puis c'était toujours quelque chose qui était les soldats accueillaient avec grand plaisir là, les paquets et grande anticipation. Qu'est-ce qu'on va trouver un peu comme un jour de Noël, si on veut, là, dans le paquet. Et puis il me contait que il avait reçu un paquet quand même assez imposant de sa mère. Puis la tradition était que avec tes amis, avec tes camarades, ben, il y en a un qui reçoit un paquet, puis s'il y a des biscuits, puis du pain, ou des bonbons, des gâteaux, on partage. C'est l'armée. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Là. Et puis, donc, c'est avec grande anticipation qu'il a ouvert son paquet en pensant, tu sais, à ses biscuits préférés de sa mère. Et tout ça. Et puis, il ouvre le paquet, et puis c'était 4 paires de bas de laine. Très tôt dans une carrière militaire, puis ça, on a touché à ça quand on a parlé de la bataille de Hong Kong. Très tôt dans une carrière militaire, tu t'aperçois que si tu essaies de faire tout ça, ça marchera pas. Hein. Et c'est vraiment une équipe, même à la limite une famille. Mais pour revenir à
Monsieur Mullen.
Monsieur Mullen. Donc, il est dans la région de Nijmegen, en Hollande. Et puis les combats sont rudes, les conditions sont rudes, la météo est rude, puis ils ont faim. Fait que ça va pas.
À part ça, ça va super bien.
Ouais, ça va pas super bien, exactement. Et puis il reçoit son paquet avec grande anticipation. Et puis il ouvre. Et puis parce que je m'imagine lui en train de me raconter l'histoire. Et puis il ouvre le paquet et puis c'était 4 paires de bas de laine que sa mère avait tricoté avec amour. Mais il dit j'aime ma mère, j'ai adoré ma mère. Il dit, mais ce jour-là, j'étais un peu déçu de recevoir des bas de laine.
Il aurait facilement échangé ses bas de laine contre un...
C'est ça.
N'importe quoi qu'il se mangeait.
Ouais, puis je me souviens, il me racontait qu'elle faisait des shortbread cookies. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais c'était un whisky. Ceux qui sont familiers avec la cuisine anglophone traditionnelle de la région ici, le shortbread cookies. Puis il disait qu'elle mettait un petit peu de glaçage sucré là-dessus. En tout cas, puis ils avaient décrit, mais ils auraient échangé des bas de laine pour... ils auraient donné 4 bas de laine, je pense, pour un shortbread cookie. Mais en tout cas, pour dire là, que la situation était quand même assez rude. Puis tu sais, c'était des mois et des mois et des mois là, de combat pratiquement continu. Là. Les autres, il n'était pas question là, d'aller en permission, là, en vacances, puis tout ça. Lui, il n'a pas connu ça. Il est arrivé au mois de juin, puis il est resté jusqu'à...
Ils ont jamais retiré du... Ben, ils retiraient du front.
Oui, oui, mais lui était, vu que lui était pas au front comme tel, là, parce que il était, comme je disais, là, il conduisait
un camion.
Fait que c'est ça. Là,
okay, les soldats qui étaient au support logistique, ouais, comme lui,
c'était plus...
ils disaient, bon, ils sont moins stressés, ben, ils vivent moins l'action du front, fait qu'ils ont moins besoin de vacances.
Ouais.
OK, c'est bon. Je savais pas ça. Je pensais que tu étais égal pour tout le monde. Alors, que tu avais une petite fin de semaine de vacances.
Il n'y a jamais rien d'égal dans la vie. Puis, fait que c'est ça. Lui, il a survécu tout ça. Puis, à un moment donné, quand il me racontait son histoire, là, justement, là, dans le banc d'église St. James à Wakeham, on était rendu au mois de mai 1945. Puis, je lui avais posé la question. J'ai dit... Tu devais être content, la guerre était finie. Et puis, ça n'a pas été long, il m'a rappelé. Tout de suite, il m'a coupé. Il dit, non, la guerre n'était pas finie. Il dit, moi, je m'étais porté volontaire pour aller au Pacifique. Parce que c'est à ses yeux, il y avait encore des Canadiens qui étaient, notamment son cousin, qui était prisonnier à Hong Kong. Et puis, malheureusement, il a appris plus tard que son cousin était décédé comme
prisonnier de guerre sous le joug japonais.
Il est mort des effets de la diphtérie. On dit-tu diphtérie ou diphtérie?
Diphtérie.
À Hong Kong, Elmer Mullen. Il est mort en 1942.
OK, c'était...
Ouais, mais avant qu'il sache.
Ouais, ça, parce qu'il n'y avait pas de contact... Je crois que le Japon laissait peu passer de matériel Fait que la plupart, justement, qui étaient prisonniers à Hong Kong, pour les familles, ils devaient penser qu'ils étaient tous décédés, puisqu'il y avait très peu de correspondants. Il y en a eu quand même.
Il y en a eu au début. Au début, les premiers mois. Mais après ça, ça c'est. Les choses se sont.
Rapidement gâtées pour les.
Rapidement gâtées. Donc, puis pour revenir à M. Harris Mullen, ben lui, il était, comme je disais, il était le cadet de 4 frères qui ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait Kingsley Mullen. Kingsley Mullen a été longtemps le directeur de la pisciculture à York. Ceux qui se souviennent de. Je ne sais pas si c'est encore opérationnel, mais à l'époque, là, en tout cas dans mon temps...
Les bâtiments sont encore là.
La pisciculture de York. Donc le frère de M. Harris était le patron là-bas pendant de nombreuses années. Il vivait sur les lieux. Là. Puis lui, il est décédé, il avait entre 80 avancés. Là. Et puis un autre frère qui s'appelait Kenneth, qui lui a travaillé du côté de Murdochville. Puis lui aussi est décédé à un âge avancé. Et puis le quatrième frère, l'autre frère s'appelait Scott. Puis Scott est mort, si je me rappelle, dans les années 60 de façon accidentelle. Donc, 13 cousins issus d'une même grande famille. C'est quand même impressionnant, mais c'est pas unique à eux. C'est
juste... Ben, la quantité, je crois que ça se démarque. Là, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, mais 13, là... Ouais. Qui ont participé à Brest tous les fronts, ouais, parce que là, ils ont fait Hong Kong, Italie, le nord de l'Europe, puis il y en a sûrement là-dedans qui se sont rendus jusqu'à Berlin, parce qu'il y en a quand même quelques. C'est pas l'ensemble des soldats canadiens qui se sont rendus jusqu'à Berlin, parce que la guerre était finie et les Soviétiques avaient poussé plus rapidement où l'état-major des. Anglais et américains avait ralenti un peu parce qu'il savait que les pertes allaient être épouvantables dans l'entrée de Berlin, bien sûr, parce que c'était le dernier retranchement, puis il y avait les jeunesses hitlériennes. Puis... Ça, c'est une très longue histoire qu'on abordera.
Pas aujourd'hui, en tout cas.
Pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, en tout cas. Non, puis monsieur Mullen, ben, comme tu disais, on tenait à souligner parce qu'il est décédé tout récemment. Puis c'était aussi quelqu'un qui était influent dans la communauté, pas juste la communauté anglophone, là, c'était quelqu'un qui était quand même assez, comme je disais tout à l'heure, là, la réputation, c'était pas juste une réputation, c'était un gentleman. Là. Et puis, un personnage très apprécié, puis un peu qui englobe, aux yeux de quelqu'un comme moi, là, qui était jeune, qui admirait à quelque part les anciens combattants, c'est un peu le prototype, là, si on veut. Puis je suis content qu'on ait eu la chance de parler, si ce n'est que pour un bref moment, là, de M. Harris Mullen.
Il t'a sûrement exposé sa vision de ce que c'était... la guerre, parce que de façon rétroactive, son retour, est-ce qu'il y avait glissé mot de ça ou...
Ben, la dernière fois que je l'ai vu, ça a fait... je l'ai vu, voyez-vous, il est décédé là, dans les dernières semaines. Moi, je l'ai vu l'automne dernier, j'étais arrêté chez eux. Toujours... jovial, toujours content de recevoir la visite. Et puis une des choses qui puis c'est pas unique à lui, c'est un peu le propre, là, si on veut, de en tout cas les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Il en parlait entre eux. Mais je pense qu'il essayait de protéger leur famille de ça, là. Il voulait pas accabler les enfants puis les épouses avec des histoires, là, de... Puis c'était une autre génération, c'était le sens du devoir, pas juste le devoir militaire, mais le devoir, la responsabilité dans la vie en général. Lui avait une famille à élever, puis il est devenu un homme d'affaires, lui. Il était l'agent, il avait une agence de pétrole puis d'huile de chauffage. Un fait que j'avais trouvé intéressant lors de ma dernière visite avec, c'était que j'étais pas, il n'y avait pas juste lui et moi dans la pièce. On était un petit groupe. Mais par contre, lui et moi étaient engagés dans une conversation. Et puis, en sortant, il y avait quelqu'un qui avait remarqué. Il avait dit, il n'en parle pas souvent. J'avais trouvé ça bizarre dans le sens que peut-être que dans son cas, dans le cas de cette personne-là, elle n'avait jamais entendu parler de ces choses-là, mais moi, puis peut-être le fait que j'étais ex-militaire, puis le fait que je m'intéressais à ça, si je posais des questions pertinentes, en tout cas, j'espère qu'elles étaient pertinentes, et puis, parce que moi, j'avais trouvé que c'était le contraire, qu'il était ouvert à raconter des choses. Puis à toutes les fois que je faisais une activité dans la région ici, soit une exposition, une conférence ou quelque chose du genre, il était toujours présent. Puis il m'encourageait là-dedans. Justement, on vient à la dernière visite avec lui. C'est là qu'il m'avait dit à un moment donné, il dit, « You might want to write this down. » Il dit ça, tu pourrais prendre des notes, là. Puis il m'avait donné les unités dans lesquelles un tel avait servi, un tel était à telle place, puis tout ça. Là. Il y avait 95, quand même. Puis c'était des gens qui étaient des bons exemples pour la génération qui a suivi, c'est certain.
C'est intéressant que tu apportes ce point-là parce que je sais pas s'il y a des gens qui prédisposent à la discussion plus. Parce que moi, j'étais avec... j'étais allé voir la famille de mon grand-oncle Firmin, qui lui a fait la Normandie. Puis j'avais parlé avec pendant toute une après-midi, où il m'avait conté ce qu'il avait fait en Angleterre, comment il avait traversé son enrôlement. Puis là, j'étais comme, ben là, il parle de ça avec tout le monde. Manifestement, c'est pas de quoi qu'il...
Il avait pas l'air traumatisé par l'expérience de te le dire. Là.
Non, c'est ça. Puis ça, c'était super intéressant. C'était un feu roulant. Tu sais, juste que ça... De la Normandie, même ses radiocommunications, la traversée, il était 3 jours en arrière du front. juste, il dit, j'entendais tout le temps les canons jusqu'à sur les radiocommunications. Fait que je rencontre ça, des membres de sa famille. Puis là, je lui demande, tu sais, vous devez avoir des anecdotes. Non. Il dit, Pan nous parlait pas vraiment de ça. Il dit, puis là, pas rien qu'un, là.
Ouais, ouais, c'est ça.
Deux, trois frères, puis. Mm. Non, on. Puis là, je lui dis ça, je lui garde l'histoire. Il dit, oh mon Dieu, on savait pas ça. Mm. C'est comme, il y a comme, des fois, les étoiles sont alignées pour, puis. Peut-être la capacité d'écoute ou.
Puis le passage du temps. Le passage du temps. Il est pas revenu la semaine dernière. Là. On parle de. Tu sais, il te racontait ça, là, je sais pas, là, 40, 50, 60 ans après les faits.
Jusqu'en 92, si ma mémoire est bonne, 91.
C'est ça, 50 ans après les, ouais. après les faits. Il y avait le temps là, de décanter un peu. Parce que. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dirait que rendu à l'aube de 70, 75, 80, là, puis c'est pas, on peut pas généraliser, là, le monde sont pas tous fait pareil, là, mais on dirait que il y a un sens de devoir, du souvenir. Je sais qu'avec Phil Doddridge, mon ami, l'ancien combattant de Hong Kong, qui vit toujours à 98 ans, lui, il me l'a dit spécifiquement qu'à un moment donné, il a commencé à en parler parce qu'il avait réalisé que si je raconte pas mon histoire, qu'est-ce qui va le faire, là? Puis je pense qu'il y a un côté de ça. Puis je pense aussi que, sans être trop fleur bleue, là, mais je pense qu'il y a un élément thérapeutique peut-être à ça. Là.
Exutoire, ben oui, c'est sûr. C'est ça. S'il l'avait fait en 46, 47...
Ouais.
À l'époque, ça n'existait pas.
Oui, oui. Ouais. Je sais pas si je l'avais mentionné, mais avec M. Doddridge, j'avais justement posé la question. J'ai dit, est-ce que quelque part, santé mentale, est-ce qu'il y a eu un... Non. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé comment est-ce que je filais là, de ce côté-là.
Puis, en plus, eux, ils avaient vécu... Pour M. Doddridge, ils avaient vécu l'expérience du front. Plus l'emprisonnement, là, il y avait le cumulatif de à peu près ce que tu peux vivre de pire dans la Deuxième Guerre mondiale pour ce qui est des Canadiens.
Oui.
Il y a d'autres personnes qui subiront.
Oui.
Mais je disais, pour les Canadiens, là, l'expérience du feu, super dure.
Il y a bien des traumatismes là-dedans. Là.
Puis 44 mois dans une période charnière de ton existence que tu passes dans la vie adulte, tu t'es enrôlé presque adolescent, tu te transfères vers la vie adulte, puis à ce moment-là, là, t'es. Que tes chums sont à courir les filles, toi, t'es dans une prison, quelque part au Japon ou sur le continent.
T'as juste une dernière petite anecdote par rapport à Harris Mullen. Parce que c'était quelqu'un qui avait un peu le sens de l'humour assez affûté. Et puis, je parlais tout à l'heure là, qu'il avait venu me visiter en 2000, je pense que c'était 2014, mon exposition. Et puis, à ce moment-là, c'était... Oui, c'était 2014, parce que c'était l'année anniversaire de... Je crois que c'était le 70e anniversaire de débarquement de Normandie. Et puis, à ce moment-là, les anciens combattants de la bataille de Normandie se sont fait décorer par l'ambassade de France. France, c'était quelle médaille? La Croix de guerre? C'était pas la Croix de guerre, c'était la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Et puis, il venait de recevoir, là, dans les jours précédents de notre rencontre, il venait de recevoir la correspondance, justement, par rapport à ça. Et puis, il l'invitait à se rendre à Rimouski pour recevoir la Légion d'honneur. Puis, il m'avait répondu qu'il était content de l'honneur, tu sais, il était honoré là, de recevoir justement la Légion d'honneur, mais que le voyage à Rimouski, ça c'est pas nécessairement quelque chose qui l'allumait. Là. Il m'avait dit, ils savent où je demeure, s'ils veulent me donner la Légion d'honneur, ils ont juste à venir à Gaspé. Puis c'est avec un grand sourire qu'à un moment donné, Facebook, justement, Télé Gaspé avait fait un topo sur la présentation de la Légion d'honneur. Fait que j'étais très fier de voir M. Mullen recevoir la Légion d'honneur à Gaspé.
parce qu'il s'était déplacé pour le lui remettre. Effectivement, oui. Tu dis, moi, j'ai pris la peine de faire 5000 kilomètres pour aller...
Il avait 90 ans. Là, il était plus ou moins enthousiasmé au prospect de se rendre à Rimouski. Hein.
Puis il avait, la Légion d'honneur était remise par sa participation à la libération de la France.
C'est ça. Je crois qu'il avait décidé, hein, puis je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'était à cause de ça. Là, c'était le 70e anniversaire, puis ils se sont aperçus qu'il commençait à en avoir pas mal moins là, d'anciens, de vétérans de la campagne, de la bataille de Normandie. Puis ils ont décidé de donner la Légion, de décerner la Légion d'honneur à... aux anciens combattants dans cette campagne-là. Mais il y avait aussi un monsieur Dufresne. Oui. Il faisait partie de la même... monsieur...
Émilien Dufresne.
Ouais.
Qui, oui, il a reçu...
La même cérémonie.
Ouais. Monsieur Dufresne qui est décédé, je pense, en 2015 ou 2016. Là, qui est...
ouais. On devrait mettre un lien. Parce que à quelque part, là, si vous fouillez là, Télé Gaspé, Facebook, faites une recherche Google, là, vous allez trouver du vidéo de cette cérémonie-là. Et puis, ce qui est impressionnant, ça m'a toujours impressionné chez M. Mullen, c'est le dos droit. En tout cas, de tout le monde qui est dans la pièce, puis c'était quand même... il avait descendu un petit contingent des fusillés du Saint-Laurent qui avait descendu là, de Rimouski. Puis le gars qui paraît le mieux, le gars qui a l'air plus d'un soldat de tout le groupe, là, c'était M. Harris Mullen. Ça, il n'y avait pas de doute là-dessus.
Malgré ses 90 ans.
Malgré ses 90 ans. Ah. Dos droit, fier comme un... Mm-hmm. Ouais. C'est certain que c'est des gens là, qui nous ont influencés. Ça. Il n'y a pas de doute.
Je sais pas jusqu'à certains points s'il y avait... Je m'en vais un peu plus dans l'aspect pas philosophique, mais on pourrait dire dans la mémoire. Du côté francophone, moi, j'ai la Grande-Vallée, il y a beaucoup de gens qui ont participé, ben oui. Mais tu sais, le premier monument pour souligner participation à la Deuxième Guerre mondiale... Je pense que c'était installé dans les années 2000. Il n'y avait rien qui soulignait la participation d'une trentaine de gens de Grande-Vallée à Saint-Yvon,
oui.
Qui étaient décollés outre-mer.
Rappelle-moi, c'est quoi Grande-Vallée, c'est quoi qu'ils ont...
Ils ont mis un monument gravé avec les noms dessus.
Ah, oui?
Ouais, c'est... mais c'est pas une très grosse structure, mais c'est bien... Déjà, c'est quelque chose avec les drapeaux, le drapeau canadien, bien sûr, puis le...
drapeau du Québec, les deux.
Oui, les séparés Première puis Deuxième Guerre mondiale, okay. Avec les noms des gens qui ont participé.
Un peu le même scénario qu'à Gaspé. Là.
C'est ça, mais c'est la version micro. Là.
Oh oui, quand même.
Mais c'est ça, puis c'est extrêmement tard. Je crois pas qu'avant ça, il y avait des célébrations au jour du souvenir, mais c'était... très, très limité. Ou...
Commémoration.
Oui, c'est ça. Il y avait comme une limite, comme si les gens portaient une espèce, c'est pas autant d'honneur.
Oui, mais je veux pas m'embarquer trop là-dedans, mais je t'apprends rien, que le rapport à ça, du côté des francophones, c'est complexe. Plus complexe que du côté... anglophone, peut-être, je sais pas.
C'est sûr qu'il y avait un élément fort au niveau du clergé qui encourageait pas à la participation. Ça, c'est sûr. Là, au niveau catholique, francophone, le clergé était vraiment pas le porte-étendard de l'enrôlement. Fait que c'est sûr que comme il y était des personnes clés au retour... encore, parce que finalement, c'est eux qui avaient le plus d'incidence sur les paroisses. Là.
Oui.
C'est les noms des curés à Grande-Vallée, là, tout le monde peut les nommer, là, jusqu'à aux années 40. Là. Facile. Donc, peut-être que justement, vu qu'ils favorisaient pas ça, au retour, ils ont pas participé à...
Ils voulaient pas partager la scène. Partager, they didn't want to share the stage.
C'était pas leur force. On va dire entre nous. Mais... c'est tout ce que je dirais sur...
Non, mais on parle pour parler.
Mais c'est ça, j'ai aussi parlé de ça avec Mme Danielle Dufresne, qui est la fille d'Émilien Dufresne. Parce que quand son père... d'essayer d'écrire ses mémoires. À quelque part, il y a une réflexion là-dessus que ça vaut la peine.
Ouais.
Mais en même temps, je dis pourquoi vous avez pris ce temps-là pour. Mais d'un autre côté, il y a l'aspect thérapeutique, puis en vieillissant, dire si ouais. moi je le dis pas, ouais. il n'y aura pas personne pour s'en ouais. souvenir après ça. Là.
Malheureusement, j'ai pas eu l'honneur de le rencontrer, M. Dufresne, parce qu'il semble un personnage très. Certainement très intéressant, puis quelqu'un qui a vécu quand même des choses assez intenses. Là.
C'est son livre Carnet d'espoir. C'est un. Ça, c'est très, très bien écrit, très intéressant. Puis c'est ça. Puis lui, M. Dufresne, avait été fait prisonnier. Il y aura un épisode complet sur lui. Ouais. On va pas. Mais c'est ça, il avait été fait prisonnier au débarquement de Normandie. Puis il n'y a pas tant de gens que ça. Là. Fait qu'il va passer l'ensemble du restant de la Deuxième Guerre mondiale à errer de camp en camp en Allemagne.
Régiment de la Chaudière? Il y a certaines unités, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire militaire, il y a certains régiments, certains bataillons, là, que, juste à l'écoute de en entendre leur nom, on dirait qu'il y a des images qui nous viennent, là, puis le régiment de la Chaudière, c'est un de ceux-là. Là.
Il y a eu M. Ludger Hood qui a écrit ses mémoires, qui était dans le. Parce que
des unités mythiques.
Ouais. Mais dans la mythologie francophone, ouais. moi, personnellement, le nom qui résonne le plus, peu importe, c'est le Royal 22e Régiment. Ouais. Parce qu'il était comme à Québec, sur la citadelle. C'était comme.
Oui. En termes de profil, c'est certain que. Bien, non seulement ça, je veux dire, c'est une réputation qui est pleinement méritée. Là. Je veux dire. Puis ça retourne à la Première Guerre mondiale. Là.
Tom, je te remercie encore des milliers de fois. Je tenais à faire un segment sur M. Harris Mullen parce que il y avait le contexte et les étoiles étaient alignées pour cette participation. Puis en plus, comme tu avais eu la chance de le côtoyer, en fait, tu l'avais vu déjà dans ta jeunesse.
Ouais, c'est vrai.
T'étais l'être tout désigné pour venir nous parler de lui, ainsi que sa nombreuse famille et parenté qui avait participé à la Deuxième Guerre mondiale.
Je te remercie, Félix, puis juste avant de te quitter, on va prendre une seconde pour te remercier pour ta série. C'est quand même quelque chose qui... non seulement que ça a une valeur aujourd'hui, mais ça va avoir une valeur documentaire plus loin là, pour les générations qui vont suivre. Ça va leur donner un outil, en tout cas, pour soit d'approfondir leur connaissance ou un point de départ. Là. Fait que c'est, je te félicite, puis je félicite tous tes partenaires dans ce beau projet-là.
Et je te remercie infiniment pour cette séquence tellement appréciée.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Hayden. À la réalisation, Émilie Gagné. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.